Salut tout le monde, bienvenue au podcast La Remontée. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va jaser de notre événement La Conquête, mais on va aussi jaser pas mal de touring.
Touring, la rando alpine, on a des trucs de pro pour vous autres, puis...
Oui, avec Julien.
Avec Julien, qui nous en a sorti des pas pires. On est vraiment contents d'avoir partagé ce moment-là, donc...
Oui, bon podcast.
Bon podcast.
Salut tout le monde!
Salut!
Ça va un peu?
Ça va, Élie?
Yes! Bienvenue au podcast La Remontée. Aujourd'hui, notre épisode va traiter du touring.
Yeah! C'est un spécial La Conquête. Ceux qui savent, au Berson, depuis trois ans, un nouvel événement. Puis, dans le fond, on a invité Julien, qui est en charge de l'événement généralement, qui prend le gros slack qu'au Berson ne peut pas prendre. Salut Julien.
Allô, allô.
Comment ça va?
Bon matin,
bon
midi.
C'est ça.
Ça va bien, vous autres? Oui, super content d'être là.
Yes. Merci d'être là. En fait, Julien, tu es comme un ancien du Auberçon.
Oui, dans mon jeune temps.
Oui. Ben, explique-nous un peu ton background de carrière et aussi, en fait, ton lien avec Auberçon.
Je me suis retrouvé à travailler chez Auberçon. Je pense que j'avais 18-19 ans. J'en ai... moins que le double, un peu plus que le... Non, OK. J'en ai le double, pile. Donc, c'est ça. J'ai travaillé sur le plancher dans le département ski. Auberçon m'a ouvert beaucoup de portes parce que moi, j'ai fait carrière dans le milieu du ski. Ça, c'est pour le volet Auberçon. Puis, c'est une grande famille. Je ne sais pas si vous allez le dire à chaque podcast, mais...
On l'a dit au premier.
Ça revient. Ça revient. C'est une grande famille. C'est intéressant de rester toujours dans l'environnement Auberçon.
T'as été là combien de temps?
2 ans, okay. Peut-être, pas nécessairement toujours temps plein, là, selon au gré des saisons et des voyages, mais c'est justement ça aussi au Berson. Je pense que c'est pas toujours tout le monde qui est temps plein. Il y a des personnes qui reviennent, qui font des projets, Seb Dubé, par exemple, qui part en catamaran 5 ans, puis qui revient chez Auberçon après.
Toujours une place chez Auberçon pour la famille.
Cool. Ouais. Ben, en tout cas, fait que c'est le fun raison de plus de revoir ces personnes-là et de les croiser.
Puis, background de carrière, en fait, qu'est-ce que tu fais actuellement? C'est quoi un peu ton parcours?
Le double des années m'a permis de faire beaucoup de choses. Dans le fond, de profession, je suis guide de montagne en haute altitude. Donc, à la suite de mon passage chez Auberçon, tu sais pas ça? Ça explique pourquoi j'organise un événement de touring, Ellie.
Non, mais je savais pas ce background-là, mettons.
Oui, c'est ça. J'ai eu la chance de faire une école de guide, le ENSA, en Europe, en France. Donc, l'École nationale de ski et d'alpinisme. Fait que j'ai fait mon cours là de formation en haute montagne. Et après ça, j'ai travaillé avec plusieurs tour opérateurs, sans les nommer. Mais tu sais, il y en a 4-5 au Canada qui s'occupent de faire des voyages de ski. Fait que longtemps, j'ai été réceptif. Je guidais des Québécois à destination pour ceux qui prenaient ce volet-là. Après ça, j'ai tourné, été dans cette sphère-là un bon bout jusqu'à 30 ans. Ce qui m'a permis par la suite de partir ma propre entreprise et de créer des forfaits un peu plus original. Aujourd'hui à croiser et organiser depuis 3 ans maintenant un événement avec Auberçon, local au Québec. Ça fait du bien. C'est beaucoup plus intéressant à organiser aussi dans cette dynamique-là.
Ouais. C'est pour ton entreprise qui est Mountain Dew.
Oui, Mountain Dew, dans le fond. Puis maintenant, je travaille pour la Naudière aussi. Je développe des corridors plein air. Fait que tout ça m'a apporté des opportunités.
Ouais.
et ben, j'arrive à bien allier les deux, les différents projets. Puis sinon, ben, je suis propriétaire d'entreprise aussi dans le milieu plein air touristique.
Ouais. Donc, un grand passionné de plein air.
Moi, j'ai fait un de mes premiers voyages de ski avec Julien.
C'est vrai.
Vraiment, j'étais une jeune adolescente. Mon chum de ce temps-là était dans l'Ouest canadien, un bon ski bum. Puis avec l'école, il y avait un voyage organisé. Ça a donné que j'ai voyagé avec Julien pendant une semaine.
C'est vrai, j'avais oublié ça à Whistler. Voyons
exact.
Donc.
Ben
oui, dans ma tête,
voyages.
C'était au Chic-Choc. Qu'on s'était vu à l'auberge de montagne. Mais
non.
On recule de. Waouh, ben, gars, ouais. c'est vrai ce que je te dis. Élie, tout ce que je te dis.
Back in the days. Puis c'est surtout qu'après, moi, je savais pas que Julien avait travaillé chez Auberçon. Puis quand je suis rentrée quelques années plus tard, tout ça, une année, je me retourne. Boxing Day. Il y a des anciens staffs, des fois, qui viennent aider. Puis Julien qui aide, il vend des skis dans le junior.
Wow.
Tu sais, je suis comme...
Il y a du monde qui sont fauchés, des fois, tu sais. Mais c'est un bel exemple de famille, c'est vrai.
Puis là, ben là ouais. on a reconnecté. Puis là, c'est là que j'ai su qu'il avait travaillé chez Auberçon, puis tout ça. Fait que...
Ah, ça, c'est drôle.
Oui, c'est vraiment drôle. Puis après ça, j'ai voyagé avec... J'ai eu la chance avec le magasin d'aller à l'Auberge des Montagnes, que c'est Julien qui organisait aussi. Fait que Julien, périodiquement... dans ma vie, je le revois tout le temps dans un milieu plein air, tout ça. Puis là, avec la conquête, c'est sûr que...
Ah, ça, c'est cool.
Oui, vraiment.
On va se le dire, la moitié de l'industrie du ski, mettons, a passé par Cherbourg-Berson, pas loin d'eux. C'est le nombre de reps qui ont passé
beaucoup,
par là.
C'est
avant,
vraiment une belle école, tu sais.
C'est une belle école, exactement.
Ouais. Et, parlant de conquête.
C'est chaud.
Explique-nous l'événement, parce que là, tu sais, c'est ça, comme on sait actuellement, ben l'événement est complet, mais ça fait quand même 3 ans que ça revient, puis que ça roule, comme c'est un événement qui est extrêmement apprécié. Mais on a quand même envie de savoir, explique-nous un peu ce que c'est, à qui ça s'adresse, l'expérience qu'on vit, là, dans la conquête.
L'expérience qu'on vit... on va se le dire, peu importe comment on l'appelle, le ski d'ascension, touring, haute route ou whatever, je pense que c'est quand même une culture qui est très jeune au Québec. Puis actuellement, il y a du monde autant qui s'achète des nouveaux kits qu'il y en a qui sont rendus à leur deuxième kit, à savoir beaucoup plus ce qu'ils veulent. De réussir à créer un événement pour immersif, tu sais, qui est 100% à l'extérieur, dans le plus fin fond de la forêt, il n'y a pas beaucoup d'endroits au Québec qui peuvent nous offrir ça. Puis avec une qualité de neige, on va toucher du bois, mais on va se le dire, t'sais, les deux derniers, c'est 2 tempêtes en 2 qu'on a croisées. L'équipe du Mont-Édouard aussi favorise vraiment l'organisation d'un événement comme ça. On organisait un peu un événement, c'est ça, à l'auberge de montagne des Chic-Chocs aussi, dans le temps qu'on pouvait le faire. L'idée, c'était de sortir justement du plan habituel d'un voyage de ski ou d'un événement de ski. Fait qu'on joue beaucoup avec l'aspect de surprise. On essaye de créer toujours, parce que tout le monde revient, c'est ce qui fait que c'est sold out aussi, puis que c'est compliqué de s'inscrire, c'est que les anciens reviennent de façon vraiment périodique là, chaque année et en grand nombre. C'est ça, ça nous amène un peu un sentiment d'exclusivité, de VIP.
Pourquoi le Mont-Édouard avait été choisi? T'sais, c'est un milieu, je veux dire, c'est un grand milieu, on est beaucoup de skieurs qui vont être là en randonnée et tout ça. Mais pourquoi à la base c'était le Mont-Édouard qui était un petit peu plus...
C'est une aventure se rendre là, en tant que tel. On pogne tout le temps comme 3 saisons. Là. On passe de la pluie à Montréal puis on arrive là-bas, c'est la grosse tempête. Je pense que l'endroit méconnu, qui était aussi que c'est une station que autant Alexandra Auberçon, une station, mais on va dire un terrain skiable, là, parce qu'on n'est pas dans station. C'est quelque chose qu'Alexandra Auberçon aimait vraiment beaucoup. Mais encore la complicité de la montagne, le lieu exceptionnel qui est dans le fond sur le bord du fjord, fait que ça amène un microsystème aussi. On peut facilement jouer avec. Puis le terrain, le dénivelé, la variété de types de sommets, les options d'hébergement, tu sais, c'est un tout. Là, maintenant, on pourrait faire la liste de qu'est-ce qui fait un bon événement, là, mais tout ça nous est vraiment permis. Puis tu sais, quand on débarque avec les clients, le staff, c'est quand même une grosse machine. Fait que tout d'un coup, on descend comme pas loin de 250 personnes, 300 personnes. Il n'y en a plus d'Airbnb à Lens-Saint-Jean à ce moment-là. Puis l'épicerie, on quatre staffs de plus temps plein. Mais c'est bien reçu par la communauté. Tout le monde nous reçoit, sont ouverts, sont complices. Fait que c'est agréable de créer cet événement-là immersif avec, tu sais, puis les guides, je pense qu'ils font partie de l'expérience, certainement.
Aussi. C'est des guides un petit peu partout ou c'est juste surtout des gens de la région?
La majorité sont de la région parce qu'il y a vraiment un bagage et un partage qui est important dans cet événement-là. P.A. Simard, je ne sais pas si vous l'aviez l'année passée, mais tu sais, il y en a différents qui sont des légendes, qui sont là depuis tout le temps. Mais sinon, il y a plusieurs guides avec qui j'ai l'habitude de travailler, que ce soit auparavant, là, différents événements qu'on a fait, qui joignent. Fait que c'est un peu un deux tiers local, un tiers guide de la Gaspésie.
Et combien il y a de guides, mettons, pour... Nous, il y a environ une centaine de clients, participants, oui. Mmh. Combien il y a de guides pour...
Ben, on crée, dans le fond, des groupes de 8 personnes. Il y a un header, un guide de tête, et il y a tel guide, le guide à l'arrière qui ferme. Facilement, on tombe à plus de 16 accompagnateurs, guides, ambassadeurs. L'idée aussi, c'est pas de grossir. Donc, il y a cet aspect de partage-là qui est vraiment important.
Proximité,
one-on-one, pendant une journée là, de 7 heures, 8 heures que ces personnes-là vont passer. Et déjà, il y a des liens autant avec le guide toujours qu'entre participants. Il y a des personnes qui viennent en duo, mais il y en a qui viennent seules.
Ouais. Ça prend vraiment... Perso, je trouve que ça prend énorme de courage de faire toute cette route-là, se rendre-là, mais... Tu travailles sur ton bassin d'amitié aussi. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui n'est pas ami dans le groupe que tu embarques le matin.
Mais tu sais, quand tu n'as pas de partner nécessairement, c'est des événements comme ça que ça prend justement pour dire à ces gens-là qui ont envie d'essayer ou envie même de progresser, de se donner un défi, de se dire « Hey, voici, c'est accessible, je peux m'inscrire, passer une journée à rider puis à apprendre ». C'est merveilleux.
Valider des choses, que tu n'es pas tout seul à rocher, que tes pots, c'est comme ceux des autres.
Il y a un gros apprentissage là-dedans. La gestion de l'équipement, en général, en touring, c'est un art en soi. Comment tu t'habilles, comment tu traînes ton stock, quand est-ce que tu le changes, tout ça. Pis c'est sûr que d'être avec un guide de tête puis un guide de fin, en fait, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir ces aspects-là pour partager les connaissances parce que sinon, tu le fais où?
T'sais,
dans les petites montagnes, où est-ce que c'est des sentiers très balisés, mais souvent tu vas aller skier dans les pistes des montagnes de ski. C'est pas rassurant nécessairement pour tout le monde d'aller aussi dans le backcountry. T'sais, je pense que Mont-Édouard aussi, c'est un milieu assez sécuritaire pour ça. Tu peux explorer plus loin, puis il y a un certain confort là-dedans. C'est pas juste tu pars dans le champ, puis tu essaies de trouver une ligne, puis comprendre comment la montagne est faite. Là.
Ouais.
C'est pas donné à tout le monde les remarques.
Le Mont-Édouard, en fait, il y a ça aussi, tu sais, comme il y a quelque chose de particulier, puis on s'entend que c'est le plus grand terrain de ski hors-piste au Québec, là, je pense.
Si je savais même pas.
Ben, je pense que oui, mais qui est patrouillé.
Ça aurait de l'allure, puis là,
c'est ça. C'est quand même exceptionnel parce que quand on est rendu, pour ceux qui connaissent, mais même ceux qui connaissent pas, quand on est rendu au Grand Pic, t'es quand même loin, tu sais. Fait que s'il y a un accident qui arrive, ben, au moins, il peut y avoir... T'sais, l'évacuation est plus facile, entre guillemets, là. On s'entend, c'est juste ce que je veux dire. Il y a une motoneige qui peut se rendre, mais t'sais, quand même, ça reste que c'est vraiment...
Là, l'évacuation, c'est la raison pourquoi c'est un gros travail d'équipe, toute la préparation sur le terrain, autant que l'avant et l'après. Puis c'est ça aussi, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai choisi cet endroit-là, à bien y penser. Mais t'sais, c'est un step de plus de les stations qu'on est habituées, qui sont un peu plus proches des centres urbains, t'sais, Laurentide, La Naudière, le grand centre du Québec, Estrie. Puis justement, je pense que si on avait à mettre une marche entre, par exemple, l'Estrie et la Gaspésie, le Mont-Édouard, aussi Massif du Sud, on va se le dire, ces deux endroits-là viennent peut-être combler un espace en préparation parce 100%. Que ça demande beaucoup plus de préparation. Puis c'est ça qui est le fun, je trouve, dans le ski touring aussi, qu'on prend plaisir à ça. C'est pas juste, bon, tu sais, de monter autant qu'on va descendre, l'effort physique, la nature, mais il y a l'esprit de préparation. Il y a comme quelque chose d'aventure là-dedans, ouais, qui plaise à beaucoup de personnes. Là.
Mais tu sais, c'est ça, je trouve que le Mont-Édouard, c'est vraiment l'ultime expérience de ski hors-piste. Mm. Sécuritaire avant de se dire je m'en vais en Gaspésie. Ben c'est sûr, bon, il faut des formations aussi, mais tu sais, je trouve que c'est quand même, comme tu dis, un super bel entre-deux là, de descente hors piste. Là.
Mais ça permet de sensibiliser sur la formation aussi. Tu sais, dans le sens, tu sais, quand tu t'en vas dans un événement comme ça où est-ce que tu as des explications de tout ça, tu sais aussi sont où tes lacunes après, où aller chercher. Tu sais, hey, tu t'en vas pas en Gaspésie de même sans information. Tu sais, quand tu jases avec des guides, justement, qui ont de l'expérience, ben tu te rends compte de tout l'aspect sécurité puis l'aspect organisation que ça implique, là. Tu sais, je trouve que c'est important. Puis, tu sais, d'aller chercher le cours d'avalanche, tous ces trucs-là. Je sais que toi, Élie, t'as fait le cours de secourisme en région éloignée aussi. Ouais. Tu sais, ça sensibilise à des affaires auxquelles, tu sais, quand t'es proche des centres urbains, comme tu disais, ben t'as peut-être moins à penser à ça. Fait que,
ce n'est que d'avoir un réseau cellulaire. Hein, fait que,
oui, c'est
juste
ça.
Juste là, ça change beaucoup de préparation. Mais c'est, je tiens à le dire, c'est ça qui est, puis ça ressort souvent, qui est intéressant dans le ski ou le splitboard, le ski touring. Cet aspect de c'est comme si on tirait un peu plus, pour certaines personnes, ils ont l'impression de tirer plus les limites, mais dans un cadre bien sécuritaire. Fait que ça, je pense que, et c'est probablement, en tout cas, l'étape avant d'aller suivre justement un cours d'avalanche. Ça donne le goût d'aspirer à de plus grandes aventures, mais on dit souvent ne pas laisser place à l'improvisation.
Et voilà.
Puis, disons que je pense qu'effectivement, ça vient convaincre les plus sceptiques de cette théorie.
Ouais. Parlant de limite, là. Parlant de limite, justement, la limite de chaque personne est très, très différente. Comment vous gérez, justement, tu sais, je sais que les gens, ils parlent de groupe, tout ça. Souvent, les gens, ben, entre amis aussi, ils n'ont pas les mêmes niveaux. Tu sais, comment on organise? C'est quoi, c'est un questionnaire qu'on demande aux gens? C'est comment on fait les groupes?
Ça s'adresse
pour que...
à qui? Parce que là, comme, je trouve qu'on là, on est comme hors-piste, expérience.
Hein? C'est ça. Ça a l'air super.
Ça a l'air super intense, mais comme non. Fait qu'à qui ça s'adresse?
Ben c'est ça. Tandis le nombre de groupes impressionnants qu'on a, ça nous permet d'amener une diversité de niveaux entre les groupes. Et tu sais, on n'essaye pas de mettre juste les splitboards ensemble, mais le terrain, selon l'expérience et le type de, je veux dire, d'embarcation. Le type. Si t'arrives en chaloupe ou en canot, tout dépendant. Mais si t'arrives en ski, faut dire aussi que nous, on permet aux personnes d'essayer d'autres équipements. Donc les participants peuvent réserver un équipement, soit différent, pousser, essayer un marque différent,
plus
performant, la nouveau bind. Autant que quelqu'un qui a déjà eu une expérience mais qui n'a pas de matériel. Fait que je dirais que ça part en termes de touring et non en termes de alpin en station de ski. On parle d'une expérience, il y a une grande différence entre les deux. On parle d'une expérience, admettons, intermédiaire en touring. Toute personne va pouvoir retirer le maximum de son expérience. On a toujours un groupe un petit peu plus faible qui, eux, vont être mieux encadrés, mais autant en période de transition. Fait que autant quand on a fini de descendre, on va remonter les étapes à faire.
Comme une initiation, mais des gens qui ont un niveau de ski intermédiaire en station.
Tout à fait. Ouais. L'événement n'est pas conçu pour ces personnes-là, mais on accepte les personnes quand même et on crée des groupes là, vraiment plus débutants en touring.
Okay.
Je pense que c'est important de dire ça aussi. C'est ça, le côté descendre puis le côté monter n'est pas le même. T'sais, de un, expérience avec l'équipement, il y en a que c'est nouveau, fait qu'il y a beaucoup plus de temps qui est passé dans les transitions. Deux, c'est pas nécessairement parce que t'es hyper fort en descente que le côté cardio va suivre. Hein? On s'entend, là, c'est beaucoup d'énergie à dépenser dans une journée. Mais, tu sais, le contraire est aussi vrai. T'en as qui sont super forts, tu sais, côté cardio, mais côté descente, C'est un peu moins là, surtout parce que là, c'est un territoire hors-piste. Ouais. Tu peux être un skieur avancé, mais entre des arbres, tu perds ton ground. Là, faut pas que tu le regardes, l'arbre. Mais s'il y a personne qui te dit de regarder pas l'arbre, regarde entre les deux. Mais des fois, ça se peut que ça soit plus compliqué. Puis avec la quantité de neige qu'on a eue dans les dernières années, c'était difficile pour beaucoup de gens.
Ouais.
Puis il faut pas négliger c'est pas juste de tout donner l'énergie à la montée. Il faut pour descendre parce que il n'y a pas juste de monter seul ou de descendre seul. Ça vient tout le temps en paire. T'sais, si tu décides que tu vas refaire une autre descente, il faut que tu refinisses en montée. Là. Fait que tu sais, il y a beaucoup à jouer là-dedans. Là. Je pense que...
Puis il y a un esprit de groupe là-dedans. Là. C'est bien rare que tu vas la jouer solo dans ce genre d'environnement-là. Fait que ton rythme doit respecter celui des autres. Parce que,
exact.
En body-body ou avec ton jumeau... Puis, tu sais, c'est la préparation, tu sais. Là, on va forcément en parler, mais, tu sais, l'habillement, par exemple, j'ai beau avoir la personne la plus polyvalente en montée comme en descente, mais qui arrive avec un équipement de ski alpin parce qu'elle n'a jamais vécu des conditions comme celle-ci. On vient de briser son fun solide, même si c'était la personne qu'on aurait toutes dit la plus capable de franchir les limites du terrain.
Ben oui, parce qu'il n'y a rien d'agréable en passant. T'sais, si tu montes avec ton manteau là, puis t'es pas prêt à justement jouer avec tes couches, t'es mouillé, mais t'es mouillé all day.
Pour toute la journée.
T'sais, tu t'en vas pas au chalet le midi là, puis après ça, c'est là que risque de, t'sais, il fait très froid, ça nuit à l'expérience, là, l'humeur prend un coup, tout ça, t'sais, fait que justement, t'sais, qu'est-ce que t'amènes dans ton sac?
On en parle dessus.
Ouais, on en parle. C'est quoi les, t'sais, mettons là, quelqu'un, t'sais, les gens qui ont déjà fait plus de touring, sont un petit peu plus expérimentés. Tu sais, l'histoire de la coquille, tout ça. La coquille, c'est la couche extérieure du manteau qui n'est pas isolée pour aider justement contre les intempéries. Tu peux enlever ta couche isolante en dessous, mais tu sais, quelqu'un qui n'en a pas de ces affaires-là, qu'est-ce qu'il peut amener pour s'aider?
Tu sais, juste te conter une anecdote là, en termes d'équipement. Là, tu sais, puis je pense que le but de tout ça, puis c'est... admettons, une des règles en hors-piste, c'est de connaître son équipement, tu sais, dans le sens. Puis j'ai déjà eu un client à l'auberge, tu sais, qui a fallu qu'il laisse tomber complètement son voyage parce que il y avait les épaules, les mamelons tellement irrité qu'il n'était plus capable d'avancer. Donc, son chandail, le sac à dos créait une irritation. Il aurait fallu y mettre deux patchs, là, ouais, des plasters. Puis, tu sais, Fait que je veux dire, je pense pas que cette personne-là aurait pensé que ça aurait été ça le facteur aggravant.
Swing un top de sport, let's go!
ouais, genre, tu sais, mais généralement, ce genre d'affaires-là, comme les ampoules, là, sont des choses que c'est jamais la bonne idée d'arriver avec un kit neuf. Tu sais, t'es mieux de prendre ton chandail troué ou ta paire de bas qui est à veille de te lâcher, mais que tu sais qu'il fait
que
bien dans ta botte. Ouais. Tu sais, il faut trouver bien son équipement. Puis c'est ça que je trouve que avant de partir au Mont-Édouard ou autre plus grande aventure, les stations dans lesquelles on peut en faire dans les grands centres urbains, mais at large, ça permet quand même d'ajuster cet équipement-là et de le roder avant. Tu sais, on parle autant de la paire de bas, mais si tu t'en vas faire un cours d'avalanche, ou même pas un cours, mais une situation d'avalanche, un trek, puis que tu n'as jamais ouvert les outils dans lesquels tu bases ta survie, ben, tu sais, c'est pas une bonne idée. Puis ça a la même affaire dans le nautique ou whatever.
C'est pas tant de figure out, sortir le manuel d'instruction.
Mais tu serais surprise combien de personnes s'achètent une montre GPS, mais qui ne savent pas comment l'utiliser, tu sais. Ou à un moment donné, le gadget ou l'outil amène cette sécurité-là à défaut.
C'est un safety.
Ouais, en bout de ligne, t'aurais peut-être juste fait mieux d'avoir une boussole, puis ça aurait été plus accurate.
Mais
peut-être que les gens hésitent, ils se trouvent peut-être niaiseux. T'sais, la montre GPS, c'est un bon exemple. Ils se trouvent peut-être niaiseux d'essayer ça en ville. T'sais, comme, je vais le faire quand je vais sortir parce que c'est là que c'est utile, je l'ai acheté pour ça. Mais effectivement, t'sais, t'as pas le choix là, t'sais, de t'essayer. Puis tout, là. Je veux dire, je suis la première avec une montre intelligente, puis qu'il y a un peu de gossage à faire, là, juste changer l'écran. En fonction des trainings, des affaires de même. Mais
anyway, tu peux le faire avec ton téléphone cellulaire aussi, sans réseau. Fait que, mais tu sais, je pense qu'en bout de ligne, là, de tout l'équipement nécessaire, c'est vraiment le but juste d'avoir de l'équipement en quoi on a confiance, confort, chaleur. Après ça, c'est multicouche, pas juste sur les épaules, là, sur le haut du corps, tu sais.
On peut rentrer dans le vif du sujet.
Oui,
multicouche, parce que même quand on dit multicouche, il y en a peut-être pour qui c'est même pas clair, tu sais, présentement. Mmh.
C'est d'avoir des backups, tu sais, en gros, puis d'avoir un concept qui va nous permettre d'enlever des pleurs de façon stratégique sans s'exposer la peau directement au froid. Admettons qu'on s'imagine un moins 20 degrés, là. Fait que je monte, puis il y a quand même, c'est pentu à la montée, fait que je sue, j'ai la coulisse dans le dos, j'ai un sac à dos.
Les gens, ils pensent pas, mais à moins 20, tu transpires.
Ouais, ouais, puis tu sais, c'est un sac à dos, fait que c'est sûr que le couloir, là, de la colonne vertébrale, tu sais, il y a de l'humidité qui va se créer là. Fait que, tu sais, il y a ce facteur d'humidité-là qui va s'aggraver lorsque je vais prendre la pause en haut pour repréparer mon matériel à la descente. Fait que à ce moment-là, tu sais, même de là, on va dire, idéalement, c'est jamais de mettre les mains à vif le temps de faire son switch, tu sais. Fait que le multicouche devrait être aussi au niveau des gants, des mains. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps deux, trois paires de gants dépendant de la chaleur, mais qui va permettre jamais d'exposer directement mes mains.
Moi, je change tout le temps mes gants, mais là, j'avoue que d'avoir un sous-gant, puis comme ta mitaine que tu mets par-dessus.
Tu sais, les gants qu'on donne aux enfants là, pour aller à l'école. À grande, il y a de grandes mailles là-dedans. Là.
Ouais, ouais.
Mais tu sais, admettons, on peut partir de là. Après ça, ben là, t'as peut-être un liner en polar. Après ça, là, t'as la coquille, la mitaine. Puis tu sais, t'as la coquille de la coquille. Puis à un moment donné, on peut aller dans ce genre de superposition de couches-là. Fait qu'à un moment donné, dépendant si j'ai la main trempée, la main sec, les doigts gelés, j'ai besoin de place aussi si je veux mettre
des
hot pads.
L'objectif de traîner toutes ces couches-là, c'est de jouer justement pour être tout le temps confortable. Fait que c'est de rester au sec.
Et de le connaître avant de l'utiliser. Ouais, ouais. Fait qu'idéalement, c'est ça, justement. Puis on peut aller de là aux combines. Maintenant, il y a plein de combines qui sont diversifiées. Il y en a qui sont padées au niveau des cuisses, des fesses, mais qui sont vraiment... comment on pourrait dire...
Ajusté,
merci, au mollet.
À la base, un sous-vêtement de ski, faut que ça soit ajusté.
Ouais.
Tu sais, il faut qu'on pense que les vêtements, ouais, c'est ça, c'est directement sur la peau. Puis le sous-vêtement de ski, là, il est fait pour prendre l'humidité, puis la faire sécher, puis l'amener vers l'extérieur. En partant, si c'est lousse, ben il faut que tu dises que ta vapeur d'eau que tu vas créer, ben il faut qu'elle traverse de l'air pour se rendre au tissu pour ressortir. Mmh. Tu sais, moi, là, le pire, là, l'hiver, là, c'est dès que je suis humide, là, je suis inconfortable.
Ouais.
Ben, il est trop tard, non?
Il est trop tard, c'est ça, exact. Puis d'où l'importance de traîner des couches puis tout. Mais tu sais, ça, les gens, ils sous-estiment la gestion de l'humidité. Tu sais, quand tu pars, là, soit de ton auto ou de n'importe où, faut que tu aies froid. Tu sais, si tu commences à monter, puis là, ben, trois secondes après, il faut que t'enlèves, ben, d'un, t'es pas efficace dans ta gestion de temps, puis de deux, t'es inconfortable parce que t'as déjà mouillé ton stock, t'es même pas rendu en haut encore, là, tu sais, fait que...
Puis êtes-vous plus, pour le touring, là, êtes-vous plus sous vêtements synthétiques ou laine merino?
Ça va être... moi, ça dépend. Ça dépend de la température.
Ouais.
Tu sais, je vais avoir une couche de base synthétique très, très, très respirante quand il va faire moins froid.
Ouais.
Que je sais que ça va juste sécher vite puis ça va sortir le... Tu sais, juste sortir la chaleur. Mais une journée qui fait plus froid, j'ai un besoin d'avoir la combinaison des deux. Puis l'autre affaire aussi, les gens, ils savent pas nécessairement, c'est que tu peux « layer up » des combines. T'sais, une couche isolante, elle n'arrête pas de fonctionner parce que quand c'est un bon synthétique qui respire, puis quand c'est un bon mérino, un bon tissage, ben ça arrête pas de travailler parce que tu les as mis un par-dessus l'autre.
Tu porterais, une couche de base synthétique par-dessus, tu te mettrais une autre couche de base en mérino?
Oui, why not? Le synthétique, il va te garder aussi. Tu as le feeling d'être au sec.
Ouais.
Le mérino, ben ça va te garder chaud même quand c'est mouillé.
Ouais.
Fait que tu sais, t'as un peu le meilleur des deux mondes là-dedans. Il existe des couches de base aussi que c'est une fusion des deux. On s'entend, ce n'est pas un mix. Un mix, tu réduis un peu la performance des les deux très bons côtés du mérino et du synthétique. Fait que, tu sais, c'est cet aspect-là aussi. Là. Mais oui, layer up les couches de base. Là,
intéressant.
Ouais. Puis là, vous, quand vous montez, vous mettez quoi? Parce que moi,
mais c'est ça,
moi je suis une fille shell en montée.
Ah ouais, moi, je suis pas pantoute. Fait que, tu sais, je te dirais que moi, c'est ça le défi. C'est de réussir à, comme, toffer le truc jusqu'à temps que je commence à suer, puis d'être assez attentif qu'à ce moment-là, il faut que j'ouvre les valves. Parce que là, tu sais, j'ai comme. Soit que j'ai froid, ou que je vais commencer à suer. Mais tu sais, je cours plus de 5 km puis je ne sue pas. Là, t'sais, fait à un moment donné, mais c'est un défi. T'sais, vaut mieux autant que tu sues comme une éponge puis qu'après ça, tu le saches dès le début puis que tu peux te préparer en conséquence.
T'sais. Fait que toi, tu montes avec ta coquille?
Ben, ça dépend. T'sais, de plus en plus, il y a... Moi, ce que j'aime, puis là, tu sais, bon, je prêche pour mes commanditaires, mais ça fait très longtemps que je suis appuyé par Orage. Puis justement, tu sais, il y a des compagnies comme Orage qui ont développé un peu un quelque chose d'alternatif qui fait que, tu sais, ça va être ouvert et aéré à des endroits comme le dos ou comme l'avant. Mais au niveau des bras, ça va être flexible. Fait que, tu sais, parce que c'est ça l'affaire. C'est qu'à un moment donné, tu veux pas que ce soit tout... coussiner et fait difficile avec la multiplication des couches. À un moment donné, t'as de la misère à fléchir les bras.
Mais ça, c'est pas mieux. C'est ça l'affaire aussi. C'est, les gens, quand il fait très, très froid, ont tendance à overlayer. Tu sais, vraiment serré pour avoir beaucoup, beaucoup de couches. Mais si t'as plus d'air parce que t'es tellement serré dans ton stock, bien, c'est l'air qui est isolant à la base, là. Tu sais, fait que si tout est tellement serré, bien, les gens vont... Tu sais, forcément, on va avoir froid parce que t'as pas d'air. Ouais.
Mais je te dirais, tu sais, il faudrait dire qu'est-ce que t'as mangé la veille et au déjeuner pour que je te dise quoi mettre, tu sais, parce qu'en bout de ligne, c'est vrai, là. Tu sais, moi, je me suis déjà, des journées de moins 30, claqué des coups de chaleur. En guidant.
Mon Dieu.
Fait que, ouais. Puis, tu sais, bon, je l'avais échappé la veille. J'avais mangé, genre, copieux au déjeuner. Ouais, hein? Puis, en bout de ligne, peut-être moins attentif ou autre.
Fait que ça ne t'aide pas de over-manger avant. Non plus.
T'sais, ben c'est... non plus. Tu sais, il faut que tu sois comme un petit écureuil. Là. Moi, je pense qu'il faut que tu grignotes tout le temps. Il faut que jamais tu tombes en déficit, mais il faut jamais que tu sois plein. Fait que, ouais. Je sais pas, moi, je mange tout le temps
quand
un petit
peu,
mais tu sais, j'ai peut-être 5 repas par jour, mais je grignote toujours un peu plutôt que de faire 2 repas. Ouais. Puis je pense que c'est ça aussi parce que, comme on a dit tantôt, il n'y a pas de non-retour. Puis plus tu es en milieu éloigné, même si tu as une préparation béton, si tu n'as pas été attentif puis que tu es en sueur, autant que si tu n'as pas été attentif puis que tu es en déficit d'énergie, il est trop tard. Là. Même si tu as comme le carré aux dates de luxe de ta grand-mère, ça va prendre au moins une heure avant de te redonner un boost d'énergie. Là. Mais,
les conseils, vraiment, c'est de ne pas te rendre à avoir faim, de ne pas te rendre à avoir soif non plus, puis de ne pas te rendre à transpirer. C'est jamais de toucher ces limites-là, finalement, là, pour que ça soit pour garder ta zone de confort.
C'est
ça qui est malade,
c'est qu'en venant à l'événement, ce monde-là, où les participants peuvent échanger, participer, analyser, comparer. Tu sais, je pense que tout le monde vient avec de l'humilité à cet événement-là. Puis, tu sais, on n'en parle pas, mais on a des groupes experts avancés qui prennent d'autres secteurs, mais eux aussi en ont beaucoup à apprendre. On n'est pas à l'abri d'un bris d'équipement ou d'autres affaires, puis c'est justement des choses qui sont intéressantes ou qu'on doit prévenir comment je peux revenir à la sortie des bois j'ai plus de binding ou quelque chose comme ça. Fait que, donc, c'est important de respecter les étapes.
Moi, je change tout le temps les gants, là, je vais penser à ça.
Mais moi, tu vois, c'est ça, j'ai une paire de gants puis je rajoute par-dessus.
Non,
fait que celle-là, je l'enlève jamais, fait que je rajoute. Fait que justement, j'ai appris un moment donné, je déteste m'exposer. Tu sais, t'es rendu en haut, la première... Moi, je monte avec ma coquille, je ne transpire pas abondamment non plus. Il y en a qui ont besoin de plus de veines, justement, mais c'est justement un de nos voyages en Gaspésie que j'avais vu ça pour la première fois, de mettre une doudoune par-dessus ma coquille. Là, je les regardais, t'as l'air d'un bleuet géant, là, juste parce que le manteau était bleu à ce moment-là, puis j'étais comme, ben c'est pas fou, tu sais, t'arrives en haut, la première chose, d'un, t'as transpiré quand même, première chose que tu veux faire, c'est de garder au chaud. Je vais le sortir de mon sac, je vais le mettre par-dessus, puis tout va bien.
De jamais enlever ta coquille.
Ben, c'est ça, t'es jamais en train de capoter. T'es en train d'essayer de défaire tes peaux, tu shakes parce que t'as froid puis tout ça. Mais tu sais, si t'as ta doudoune tout de suite, là, chill.
Ça change une vie, honnêtement.
Tu peux prendre un temps de manger aussi. T'es posé.
Je pense que il y a ça aussi, le temps. Prendre le temps.
Ouais.
Tu sais, d'être pressé, généralement, c'est là que, je sais pas, là, tu vas mal ranger de quoi. Worst case ever, tu vas perdre une mitaine sur deux. Mais tu sais, les peaux, l'équipement, tu sais, je pense que ça vaut la peine d'être confortable. Ça fait partie du sport aussi de prendre le temps d'admirer l'environnement. Puis il y a quelque chose de zen, de sain dans tout ça. Dans l'ascension comme dans la préparation.
Tellement. Fait que, mettons, couche de base, OK.
Ouais.
Après ça, quand on parle justement de... couche intermédiaire. Encore là, on a du duvet, on a du synthétique. J'en vois souvent monter avec, justement, pas la coquille, mais seulement une doudoune mais en tout cas pour moi, ouais, devient extrêmement humide après ça.
Mais ça dépend. Tu pourrais monter avec ta doudoune, c'est un synthétique. Le problème, c'est le duvet, son avantage, prend beaucoup d'air, donc il est très, très chaud, très léger, hyper compact dans le sac. C'est l'idéal à traîner un duvet. Le seul problème, c'est qu'il ne gère pas bien l'humidité.
Ouais.
Fait que si tu l'as mouillé, justement, il écrase, donc il ne contient plus son air et là, tu es fait.
Ouais.
Tu sais, fait que c'est, si tu en as un à acheter, parce que c'est ton premier, moi, je dirais qu'un synthétique de bonne qualité, que même quand il est mouillé, c'est ça, même quand il est mouillé, il va rester chaud, il va sécher plus vite aussi. Puis la doudoune, ça s'additionne à ça. Ça, c'est mon take là-dessus. Là. La doudoune, c'est un plus. Puis quand il fait très, très froid, la doudoune est utile parce qu'elle contient justement, elle est plus chaude puis elle contient plus d'air.
Puis tu sais, quand on dit la doudoune, on parle vraiment comme de la grosse doudoune, là, le over jacket là,
ouais,
qu'on voit souvent maintenant. Là. Plus que la petite doudoune, il faut une qui soit capable justement d'englober la coquille. Là, t'sais.
Mais des fois, la couche isolante synthétique, je vais la mettre à la montée, mais mettons deux puis troisième montée. T'sais, quand tu as déjà le frisson de prix, t'es en toi, t'es déjà un peu inconfortable, tu te dis j'en fais un autre ou juste une autre demi-montée pour la run, juste pour le fun, les conditions sont malades, ben là tu t'en vas après, là. Fait que tu sais, c'est pas grave si ton stock il va être mouillé, tu sais, tu t'en vas chez vous, fait que on peut passer à autre chose, mais le sec le plus longtemps possible.
Ouais. Ce qui est quand même, c'est ça, mais ce qui est quand même compliqué là-dedans aussi, c'est que c'est de l'argent. Là. C'est cher, c'est quand même dispendieux. Fait que moi, je pense que quelqu'un avec le stock qu'il y a chez eux est capable quand même de bien s'équiper dans le temps avant qu'ils sortent des pantalons de combine, mais avec padé sur les fesses. Ouais. On prenait des cotons ouatés qu'on coupait en haut de la botte du mollet, puis ça faisait ça, notre coussin pour les fesses, pour pas geler.
En bon ski bum, excellent.
Ouais, je veux dire, à un moment donné, on peut aussi aller avec ces bons vieux classiques, puis s'il y a une pièce d'équipement à acheter, c'est ça la question. T'sais, admettons que tu as un 500 pièces, c'est quoi? Ouais, mais Illy, c'est quoi? Toi? Mais la pièce d'équipement, t'sais, hors de tout doute, à ajouter, là, c'est quand même...
Aussi, mon Dieu, moi aussi, je pense que ça serait comme une coquille parce que...
La coquille, en passant, c'est la couche extérieure là, qui n'est pas isolée, très, très mince.
Tu as un manteau comme imperméable, c'est hyper respirable.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, faire du touring avec un manteau de ski alpin un peu isolé, moi, je serais pas capable. C'est surtout
mais
pour la
montée, c'est dur à gérer quand il est déjà isolé.
À gérer.
Mais première saison, j'ai commencé en touring, j'avais des pants réguliers. Oui, j'ai eu chaud, j'ouvre les trappes, mais j'avais des pants isolés. Ça gère bien mieux un pantalon, à mon avis. Puis t'as moins chaud qu'au niveau du corps, où est-ce que t'as le sac à dos, comme tu disais tantôt, là, la coulisse dans le dos, t'es pas bien.
Ouais.
T'sais, le frisson d'après-midi, ce qui fait que tu veux rentrer chez vous, c'est parce que t'es plus confortable, en fait. Là.
Mais ce qui est bien aussi du multicouche, aussi, que je me dis, c'est que dès que tu aimes le plein air et tu fais d'autres sports, ma coquille, je la mets en bike là, quand il pleut.
Ben non, c'est ça fait un coupe-vent.
C'est
là,
ça,
en bout de ligne.
Mes pantalons isolés que je m'en souviens de coquille,
trois saisons
j'y mets
quatre
en camping. Fait qu'il y a plein de choses, même des chandails, les chandails qu'on met pour aller courir ou pour faire de la rando.
Tout à fait, mais c'est ça.
C'est tout du synthétique. Fait que souvent, on pense que bon, okay, là, c'était le voir, il faudrait que j'achète telle autre affaire, mais on est toutes capables de réutiliser ça. Non, le multicouche, je trouve ça bien pour ça. Tu sais, je trouve ça, c'est très multisport. Là.
Ben, tu sais, surtout au Québec, là, on s'entend. Là, maintenant, en dedans de deux jours, tu peux avoir une différence de 20 degrés.
Ah, ouais.
Tu sais, puis souvent, quand je parle aux clients au magasin, c'est ça, je leur dis 20 degrés, là, entre 0 puis moins 20, faisons le contraire. Tu sais, entre 0 puis plus 20. C'est la différence entre avoir un manteau puis des petites bottes puis être en T-shirt. C'est énorme, la différence. Fait que, tu sais, d'une journée à l'autre, tu peux pas demander. C'est à tout le monde d'avoir 3 puis 4 jackets un hiver. Fait que le multicouche vient vraiment complémenter tout ça. Puis comme tu as dit, tu sais, tout dépendant de la coquille que tu vas prendre, c'est du 3 ou du 4 saisons selon l'épaisseur du tissu et des trucs comme ça pour que tu restes confortable. Mais même chose en camping, là, la chose la plus importante, la plus imperméable que j'ai dans mon garde-robe, c'est une coquille de ski. Là.
Mais oui,
c'est ça que je vais prendre, c'est ça que je vais amener en camping. Oui, je vais peut-être avoir chaud, là, tu sais, mais je vais dire, je vais être au sec.
Puis, toi, Julien, dans ton sac, t'as combien
de
pages?
Je suis peut-être en train de changer d'idée avec vos points. Mais moi, honnêtement, je pense que, tu sais, justement, si quelqu'un a un bon imperméable, tu sais, c'est une pièce d'équipement qui fait minimum 3 saisons, là, à ça, mais je pense, je dirais, tu sais, justement, peut-être investir dans une bonne doudoune. Tu sais, j'en ai des doudounes qui ont plus de 15 ans, puis c'est encore mes préférées.
Un petit bout de tête
gris, là. Ouais, c'est ça. Parce que, ben oui, tu sais, vous brûlez avec le feu aux manches. On a ouais. toutes la même affaire, là, ou des sparkles sur de brûleur, ouais, de feu ou de cigarette ou whatever. Mais c'est ce qui donne l'histoire à ces pièces d'équipement-là. Mais. C'est ça qui est chouette, c'est qu'à un moment donné, on se bâtit un inventaire d'équipements vieux comme le monde, puis à un moment donné, avec des nouvelles pièces, si on a des opportunités, puis à partir de là, on est capable de faire, admettons, décembre à avril tard, là, tu sais. Fait que...
C'est quoi, mettons, dans ton sac, là, t'as-tu une pièce d'équipement que... Ça, c'est ton go-to, c'est sûr que tu parles pas sans, là. Tu sais, comme ton. Un ouais. petit cossin ou je sais pas.
Ben, tu sais, j'ai tout le temps le même kit, que ce soit hiver ou été, dans un sac à dos. C'est défaut ouais. de guide, là, mais j'ai tout le temps. Fait que j'ai. Pas que je me perds souvent, là, mais j'ai du tape de chasse, des rubans de chasse, là, que si à un moment donné, je me perdais, parce que. Je suis très curieux, là, fait que j'ai tendance à tirer des fois à l'extérieur. Fait que ça, canif. J'ai toujours un sac de poubelle dans mes sacs de rando été et hiver. Autant s'asseoir sur la neige, mais avec différentes... puis on n'est pas dans un cours de survie, mais on peut faire l'hiver fondre la neige sur un... procurer, tu sais, vraiment... de l'hydratation là, avec un sac de poubelle.
Poubelle, tu vois, j'ai jamais pensé
à ça. Puis c'est que c'est léger, tu sais, c'est la chose qui va prendre jamais, même tu vas risquer de l'oublier dans ton sac. Puis il mouille, tu veux protéger ton matériel, exemple, parce qu'il mouille ton sac à dos, l'enveloppe. Fait que, ouais, c'est aussi plate que ça, je suis désolé.
Bon truc.
C'est ça, on note.
Ouais, bon. Puis sinon, duct tape, qu'on a, je pense que c'est un classique, là, même chez plusieurs guides, mais. Sur la pôle de ski, autant.
Ça, je m'en allais dire, le bâton de ski se roulait une coupe de
un
tour.
Un mètre, là. Ouais, même la même affaire en sport nautique, là, mais pour différentes particularités, le duct tape fait qu'il peut être très utile à une réparation, voire même une blessure. Fait ça, je te dirais, c'est l'autre chose. Mais en termes d'équipement, moi, c'est vraiment les gants. Pour
combien
avoir.
De paires?
Ah, tu sais, j'ai au moins genre. Ben, j'ai multicouche mitaine puis multicouche gants.
Ok, c'est ça.
Tout le temps, genre.
Les deux,
Ouais. Tu sais, à moins, quand je guide, je vais être souvent plus en gants parce que j'ai plus de manipulations à faire. Mais je suis quelqu'un qui porte fièrement la mitaine.
Ah, moi aussi, Dieu, je suis full mitaine.
J'ai tout le temps. Je me suis rendu compte cette année que. Je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais honnêtement. Oh,
c'est les signes de même qui.
J'ai constamment les mains et les pieds froids. Une chance que je fais du snow parce que je suis vraiment. J'ai jamais froid aux pieds dans mes bottes de snow, mais. Puis je me suis rendu compte qu'on dirait que je peux plus porter de gants. Même quand je fais de la montée, là, j'ai tout le temps les mains gelées, comme c'est interminable. Fait que là, je me suis acheté des... Maintenant, ils font vraiment des petites mitaines très minces. Ouais.
Coupe-vent, limite.
Coupe-vent en dedans, juste en pas brosser, là. Ça fait vraiment
la poudre de
la
bébé
différence.
Aussi. Là, je sais pas si vous vous gelez quoi que ce soit, là... Genre, back in the days, on mettait même pas de bas, on se trempait les pieds dans des bacs de poudre de bébé, puis on mettait ça direct dans le layer de la botte de ski.
Elisabeth, c'est le coin d'un parking,
avec sa poudre. Ben non, mais tu sais, ça, pas juste pour l'odeur, Rilly, là, mais tu sais, ça enlève sèche. L'humidité, là, fait que autant pour tes mains.
Mais quelle bonne idée.
Ça, puis jamais exposer la peau à l'air, ouais, là, c'est fatal. Ouais. Mais la poudre de bébé là-dessus, pour les pieds aussi, si vous avez beaucoup de condensation là, dans la coquille maintenant transparente, exemple des bottes de ski, on le voit bien, là, c'était un truc infaillible.
Mais ça aussi, là, tu sais, dans les bottes de ski, là, les gens souvent ont tendance à vouloir mettre un bas plus épais, mais c'est pas nécessairement mieux, surtout en rando alpine, tu sais, où est-ce que tu vas transpirer des pieds, tu t'en rends pas compte, mais là, tu te dis, ça s'en va tout dans le bas puis ça reste là. Ça te fait un îlot qui gèle. Tu sais, un petit glaçon autour de tes orteils. Fait que moi, je préconise un bas plus mince, à la limite un bas de compression que justement, tu vas activer la circulation puis ça sèche plus vite. Puis malgré que tu es dans tes bottes, ça va sécher un peu là, plutôt que juste d'imbiber. Puis là, un moment donné, ça devient soggy digger. Mais oui, la poudre de bébé, j'ai jamais... Moi, j'ai une petite crème pour activer la circulation. c'est un bouclier anti-froid. Il y a quelqu'un qui m'avait donné ça un moment à essayer et j'ai capoté. Tu sais, ça active la circulation, puis même que je l'avais fait essayer à mon frère, j'ai plus jamais retrouvé le tube. Il est parti avec.
C'est vrai,
ouais, c'est ça, la fille à preach. Mais ouais, mais peut-être que la poudre de bébé, ça serait mon go-to à la place.
Ouais. Ouais. Puis côté, je me rends compte aussi avec les années, tu sais, lunettes de ski, là. S'entends-tu que, tu sais, on n'a pas le goût de traîner deux lunettes de ski, là?
Puis t'as pas le goût de les garder sur tes yeux tout le long.
Non, mais t'as pas le goût non plus que les conditions sont tellement variables. Tu sais, même une journée que tu te lèves le matin, bluebird, mais finalement, en après-midi, c'est complètement flatlight.
Ben, le casque aussi, tant que...
Ouais. Ouais, ouais.
Ça, c'est l'autre pièce, là, la tête. Là, ben, qu'est-ce qu'on met sur la tête en touring?
On met rien en montée. Là.
Ben moi, je garde mon casque en montée. Là.
Ah, ouais,
mais c'est ça, tu sais, j'ai un casque qui est ultra ventilé, qui est fait exprès pour ça, là, pour la protection.
Il y en a, c'est ça, des casques plus touring que justement, c'est, tu peux le garder, c'est léger. C'est plus petit qu'un casque de vélo.
C'est
ça, c'est vraiment bien, là, honnêtement. Ben, on a l'Atomic, là, on a le Backland.
Ouais.
Je sais pas si on a...
K2, c'est avec K2 que je suis. Ouais.
Mais oui, mais justement, tu sais, mais c'est parce que les gens, des fois, ils vont avoir tendance aussi à mettre les lunettes sur la tête. Ça, je vois beaucoup de gens comme ça, mais ça, là, c'est... Tu dépenses beaucoup de l'énergie, là, de la tête. Là, ça a l'air de rien, mais là, ça s'accumule là. Tu arrives en haut, ça gèle. Tu n'as plus de goggles.
Casque et lunettes aussi, qui est comme juste attaché après le sac, c'est fatal, ça, parce que tu es là, la neige, tu passes en dessous d'un arbre, la neige rentre dans le casque, la neige rentre dans les lunettes.
Peltes, là,
mais tu sais, quand tu le sais pas, tu le sais pas.
Tu mets ça sur la tête, là, puis c'est mouillé.
Fait un bon sac de touring avec un endroit, tu sais, comme un porte-casque là, à l'extérieur, même si votre sac est assez gros, vous êtes capable de rentrer à l'intérieur, génial. Mais puis les lunettes de ski, c'est ça, je parlais de ça, parce que de plus en plus de compagnies font des lunettes avec des lentilles.
Là, le Julbo, ils font ça. Là, tu fais juste switcher, puis à distance, c'est comme si ça prenait...
Juste pour laisser l'humidité sortir.
Ouais, incroyable. Mettons 4-5 cm qu'elle a vite à distance. Puis à ce moment-là, ça ventile plus.
Toi, qu'est-ce que tu portes?
C'est une bonne question. Qu'est-ce que
des lunettes de soleil.
Souvent, plus souvent, mais tu sais, je suis incapable de descendre avec des lunettes de soleil, une pente, là, c'est...
Tu sais,
une affaire de trop à gérer, là, t'as la petite goutte qui se forme, là, t'essayes de pas...
Les bronzés font du ski, là, c'est drôle
ça. Vraiment. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que la lunette de ski, tu sais, puis c'est la même affaire en alpin comme en montée, c'est qu'il faut que tu gardes la visibilité nette, tu sais, puis t'essaies de pas gratter, là, quand il y a du givre dedans, fait que c'est comme on disait tantôt, c'est un autre point de non-retour, là, c'est-à-dire quand t'as du givre dans ta gogo, t'es faite, là.
Quand tu passes dans les canons à neige, là, tu sais, faut pas que tu frottes, là, après ça, c'est terminé.
Elle veut dire, faut qu'elle reste tout le temps frette, la vitre. C'est ça le but, c'est faut qu'elle reste tout le temps froid, parce que si t'as mets dans ton gilet, c'est pas mieux, tu vas la remettre sur tes... Elle va pogner. Fait que, idéalement, tu sais, s'il y a une affaire qui doit rester exposée à l'air froid, c'est la lunette. À part quand t'es sur les yeux, tu sais. Fait que quand on les met sur notre casque, la chaleur de la tête fait que ça va foguer.
Moi, j'ai mis dans mon sac, puis j'ai jamais eu de problème avec
mes...
Genre premier sur le top, là, casque et lunettes, tu sais, prêt à enlever. Parce que tu veux pas que ça soit lousse non plus, parce que ça pogne partout en montant.
Puis les autres affaires dans ton sac, mettons là, vos collations. Parce que tu sais, quand il fait vraiment froid, il y a rien de plus. Tu sais, t'es déshydraté un peu, puis là, tu t'en vas te prendre une barre tonde, genre dure, sèche, ça te roule dans la bouche, puis là, c'est là le danger, c'est que ça t'écœure. Fait que là, tu manges moins parce que ça te tente pas, parce que c'est pas agréable, tout ça. Fait que là, moins d'énergie, puis à un moment donné, tu bangs. Tu sais, à un moment donné, tu frappes un peu un mur, les autres continuent à avancer, puis toi, t'as de la misère à suivre, mais comme t'as dit tantôt, si tu te mets à manger là, ben, c'est trop tard, là. Ouais. Je veux dire, ça te prend au moins une demi-heure à digérer selon ce que tu as mangé. Fait que vous mettez quoi dans votre sac comme collation?
Moi, c'est dans mon manteau. J'ai tout le temps comme une pochette collation là, dans le manteau qui évite justement de ressortir le sac et tout.
Moi, je suis vraiment... J'ai toujours une sandwich dans mon sac. VG-pâté.
VG-pâté.
Ah ouais, ça gèle pas, genre. Moi, c'est ça. Moi, j'en suis revenu au carré aux dates, là. Okay. C'est vraiment ma collation de prédilection. Tu peux le mettre gras, là. Mais ça gèle pas. Jamais. Okay. Fait que, tu sais, c'est pas comme des trucs avec des noix où est-ce que tu manques de te casser une dent.
Ben, moi, j'ai toujours un sac de noix avec des fruits séchés, du chocolat, des jujubes, genre le power mix. À chaque fois, moi et mon chum, on se fait des mix. On est comme, waouh, as-tu vu qu'est-ce qu'il y a dans le mix? C'est vraiment le fun.
C'est
comme
un
genre de plaisir. Ton gummy bear, quand il fait genre moins 30.
Il est bon.
Mais tu sais, comme ça, moi, je dis toujours, avec les chèvres, je dis toujours aux filles, tu sais, des quelque chose qui vous fait plaisir, dans le fond. Amenez-nous des trucs que vous aimez. Tu sais, c'est ça, une cliff dure. Si t'aimes ça, amène-en. Mais tu sais, des fois, c'est moins ça. Tu sais,
fait que c'est ça. C'est pas contre cliff, c'est juste l'hiver.
C'est ça, à gel. Tu sais.
C'est ça.
Fait que, mettons, c'est ça, tes mélanges de noix, sandwich, des fruits, c'est sûr que c'est un petit peu moins ça, mais tu sais, des fruits séchés, du chocolat, corps aux dates.
Mais moi, j'ai essayé.
Je savais qu'il allait sortir.
Il y a des bars NAC qui gèlent pas l'hiver. Ils sont un peu comme greasy, là, tu sais. Puis tu peux les manger, puis ça te colle dans les dents, mais au moins, c'est pas sec, tu sais.
En fait, la Builder, la Cliff Builder, à la menthe.
À la menthe.
Celle-là est délice.
C'est menthe avec chocolat.
Ouais, non, je suis obsédée avec
ça. Moi, je me traîne aussi tout le temps une petite compote de pommes, tu sais, là, d'enfant.
Go, go, squeeze!
Parce que des fois, t'es en train de monter, pas le temps de commencer à gosser, tu sais, t'es pas prête à arrêter, mais tu sens que ton énergie descend juste un peu, puis ça, c'est du sucre, puis ça rentre direct.
C'est vrai.
Tu sais, puis ça te donne un petit micro-boost, juste le temps à la limite que tu te rendes, tu sais, ailleurs ou. Ça, puis le petit bouillon, là.
Oui, c'est ça.
Moi, j'ai tout le temps deux bouteilles, une bouteille d'eau, bien remplie, une grosse nalgène, justement. Petit truc de pro qu'Élie m'avait montré, la mettre à l'envers.
Ben oui.
Hein, comme ça, le bouchon, c'est ça, le bouchon, dans le fond, où est-ce que le bouchon, ça gèle pas. Où est-ce qu'il gèle en premier, c'est quand l'eau est en contact avec l'air. Fait que, tu sais, ça, Élie, j'ai retenu ce petit truc.
Froide ou au chaud?
De l'eau, elle devient froide. Là. L'eau du robinet.
C'est ça, l'eau du robinet.
Moi, je mets tout le temps de l'eau chaude.
Mais moi, c'est je me fais un bouillon pour ça.
Ouais.
Un petit thermos. Là.
Moins vite quand même.
Ouais.
Là, dépendant des bouteilles que tu as. Moi, je mets ma bouteille dans une tuque de spare, admettons.
Okay, ouais.
Ça la garde au chaud.
Puis, tu sais, un litre, des fois, les gens ne savent pas trop la quantité aussi, mais en tout cas, moi, un litre, c'est.
On dit 3 litres. 3 litres, admettons que tu te perdais, il faut au minimum 3 litres. Hey. À peu près. C'est beaucoup. Là. Les camelbacks, habituellement, c'est 2 litres, je pense.
Ouais. Le camelback l'hiver. Là.
Non, c'est
ouf.
Ça.
Même si il y a des sleeves par-dessus, c'est tough parce que le bouchon, il vient qu'à geler aussi, justement. T'sais, sinon, il faut tout le temps que tu ressouffles dedans pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau dedans. Puis c'est jamais parfait.
Mais moi, tu sais, je m'en sers pas tant, exemple, avec la pipette pour le boire constamment, parce que même avec leur gaine chaleur, là, ça marche à moitié du temps. Mais si je manque d'eau, c'est comme, c'est avec ça que je refill ma gourde.
Ah, ben oui, j'avoue. OK.
Fait que, tu sais, au lieu d'avoir,
ça me gosse d'avoir 4. Tu
sais, Nalgene, admettons, là, d'avoir 4. En plus, tu sais, comme guide, on en amène pour les clients aussi.
Ouais.
Il faut tout le temps, là. Fait qu'on a à peu près 3 fois de litrage que ce que vous avez.
Ça prend des gens en forme quand même, hein? Parce que tu traînes encore
c'est
plus.
Pas, on est généralement pas les plus en forme. C'est ça le pire.
Les plus endurants, par contre.
Ouais, peut-être. Ou en tout cas, on sait être. On est bien préparé, on sait gérer notre énergie en fonction de ça, mais on commence, c'est comme un rolling gag, on commence tout le temps la saison sur le cul, plus ou moins, là, tu sais, je suis pas du genre à aller bencher de la tôle pis tout, mais plus au fur et à mesure que la saison avance, ben on se fait du jambon un petit peu, là, ça revient,
mais
tu veux pas ouvrir un sentier ta première journée, hein, ça va.
Mais non.
Mais la poche, c'est ça, le camelback, juste d'avoir pas nécessairement la paille, là, ou même la traîner juste pour remplir.
Au pire,
C'est vrai que c'est une bonne idée, parce que des nageantes, c'est vrai que dans un sac, ça prend quand même...
Ça prend plus de place, là.
Ben, facile à avoir, tu sais, on veut une gourde à ne pas être obligé de défaire son sac à chaque fois.
Accessible. Fait que
les fameuses...
les
compartiments, admettons, là. Mais le but étant, c'est ça, tu sais, de penser à toi, ta personne, puis normalement, si t'es accompagné, ben... par un guide. Le guide a des compléments d'équipement ouais. ou autre, toujours un peu. Là.
Puis, tu sais, il faut penser à boire aussi. Là,
pas parce qu'il fait froid qu'on boit pas.
C'est ça. Mmh. Chaque fois qu'il y a un arrêt qui se fait pour changer une couche, un gant, se moucher, je sais pas, n'importe quoi, mais prendre au moins une gorgée mmh. parce qu'on oublie souvent là, l'hiver. Puis c'est.
Ben,
c'est
ça, puis il faut s'encourager.
Le bouillon, c'est une bonne idée pour ça. Le bouillon salé.
Ouais.
Là,
ouais.
Ouais, ça donne
ça amène l'électrolyte ouais. en même temps. Là, fait que.
Ouais. Ouais.
Mais tu sais, il faut pas sous-estimer aussi, des fois, quand on est le dernier, parce que j'ai déjà été dans cette position-là, peut-être un peu moins maintenant, quand tu es le dernier de la file, faut que tu le prennes ce temps-là, même si les autres ils t'ont ouais. attendu, puis qu'ils sont là, puis sont prêts à repartir, mais toi, tu n'as pas eu le même break, puis déjà ça. Que tu prends, probablement que tu dépenses plus d'énergie qu'eux autres, parce que le niveau physique n'est pas le même, mais prends-les le temps là, de boire tout, parce que c'est pas à ton avantage de skipper cette partie-là ou skipper un ravitaillement si tu veux maximiser ta journée.
Tu dépenses plus d'énergie à penser.
Ben oui, après
ça,
à rattraper.
Puis ouais, on peut être méchant.
Ils m'attendent. C'est ça, un, ils m'attendent. Mais pour vrai, quand t'es la personne qui est en avant, tu t'en fous ben raide. T'es juste là pour le fun. Fait, faut pas que tu sois le dernier à penser tout le temps dans ta tête. Là, puis c'est correct si tu montes, là. Tu peux pas parler. Ouais. L'idéal, en fait, c'est de toujours être capable de parler. Comme ça, tu te rends pas dans des fréquences cardiaques hyper élevées. Mais si toi, tu as une pause et que l'autre est tout le temps en train de jaser, ben c'est correct que toi, tu ne répondes pas tout de suite. Respecte-toi.
L'idée d'aller avec des gens avec qui on est confortable. On dit souvent ça aussi.
Effectivement.
Surtout si tu te fais initier à aller avec des gens avec qui vous êtes bien, que vous savez que ça sera pas rushant, parce que ça peut être rushant.
Ben, puis, de toute façon, le but de tout ça, là, c'est de rester homogène, d'être ensemble, le groupe, parce que anyway, les personnes en avant, ils vont attendre plus longtemps la personne qui traîne en arrière, fait que généralement, ils vont pogner fret en attendant. Fait que, l'idéal, c'est d'avoir un pas commun, puis d'être capable de
ne pas se dissocier. Tout le monde a un pas plus
slow à
mettre. Voilà. Ben, c'est ça, mais à un moment donné, ça fait partie de l'esprit de groupe, ouais. tout dépendant du genre de randonnée que tu fais, là, mais on est toujours dans le contexte, admettons, Mont-Édouard, là, ouais. parce que on veut rester chaud et on n'a pas la possibilité d'aller au chalet se réchauffer. Là.
Oui, tu sais, on peut dire justement... donc voici, moi, ma journée aujourd'hui, ça sera ça. J'ai prévu aller faire tant de kilomètres, tant de descentes, tant d'heures. C'est ça qui va se passer.
T'sais. Normalement, on partage notre énergie. Hein, mm-hmm. C'est ça, si on commande. Mais là, c'est tous les avantages que je crois qu'il y a d'engager un guide. Ouais. C'est que ce guide-là va amener un pas commun, va amener une réflexion juste au départ en sachant autre que l'expérience, c'est quoi l'énergie du groupe en général, puis déjà de le savoir au début qu'il y en a un qui est comme super high, puis quelqu'un d'autre qui est comme une journée plus difficile comme les d'autres, ben je pense que s'il y a un esprit commun, on va réussir tout le monde à s'alléger un petit peu, puis fait que communication.
C'est dans un groupe que t'es vraiment inconfortable et que tu sais que c'est le groupe qui te fait sentir comme ça, puis c'est pas toi qui te mets la pression, ben c'est le temps de trouver peut-être un autre groupe pour certaines sorties, tu sais, le temps que tu te mettes à niveau, tout ça, parce que toi, t'as pas de plaisir. Le but, là, c'est que tout le monde finisse avec le sourire d'en face.
Ouais, exact.
Tu sais, il y a aucune... honnêtement, là, il y a... dans le backcountry, là, tu sais, si tu te respectes pas, ben, tu finiras pas comme il faut. Tu finiras pas d'un... ta fin de journée, là, tout le monde va aller prendre une bière, toi, tu vas vouloir aller te coucher, tu seras pas content, tu seras pas confortable, tout ça, tu sais. Le but, c'est de vibrer puis faire de quoi ensemble.
Ouais.
Si toi, tu veux juste être dehors, ben, tu sais, il faut que tu puisses en profiter comme tout le monde.
Mais je connais pas grand personne, moi, ouais, qui sont comme, admettons, plus rapides que les autres, puis avec une information comme quoi, hey, aujourd'hui, on va la prendre plus mollo. Tu sais, tout le monde a passé par là, là à avoir des mauvaises journées, à être la personne en arrière. Puis, je pense que le touring, il y a très peu de personnes qui se mettent dans la performance, ou si oui, laisse-la aller, puis
ben oui,
t'as pas besoin
ça,
de cette personne-là, de toute façon.
No friends on Powder Day. Ben il y en a qui vivent par ça. Là,
ben, par ça, mais tu sais, au pire, c'est ça. Mais justement, t'as aussi bien de la laisser aller que de claquer la pression toute la journée, puis l'énergie va être meilleure pour tout le monde, mais généralement...
On va se retrouver à la fin, là.
Moi, j'ai jamais eu vraiment de difficulté à créer une chimie dans un groupe pour respecter le pas de chacun. Même souvent, c'est ceux en avant qui ralentissent encore plus le pas pour inclure la personne en arrière. Mais encore là, on parle pas d'avancer puis débutant, là, tu sais, où est-ce que...
D'intermédiaire, c'est ça, mix, là.
Ouais. Mais c'est la responsabilité de qui amène qui.
Voilà.
Tu sais, une amie qui veut bien passer une journée avec son meilleur meilleur ami. Oui, mais c'était peut-être pas le moment, puis c'est peut-être là que ça va être un peu moins charmant.
On va se faire
charmant.
D'autres amis. Ouais. C'est tout.
Ben, c'est ce que l'événement, en tout cas, au Mont-Édouard amène, vraiment, justement, vraiment. De pouvoir se trouver d'autres équipes.
Puis là, on a un petit...
C'est le temps de passer au fameux questionnaire.
Oh,
le Live Speed Dating. Fait que c'est deux, trois questions en rafale. Pour finir, Julien, ski ou snow?
Hey, je fais les deux, mais je suis vraiment ski. Il n'y a rien de mieux qu'une descente en poudreuse en snowboard, c'est le surf.
Il y a comme, yeah!
Ça pour ça, ouais, vraiment. Mais sinon, skieur.
OK. Été ou hiver?
Je suis les deux, mais il y a quelqu'un récemment qui m'a dit que j'étais clairement haut si on considérait la neige comme l'eau et tout. Fait que, je dirais hiver.
OK.
Bib ou pens?
Bib, all the way, mais encore là, checker le fit avec votre sac à dos puis la superposition des couches parce que c'est pas le plus beau bib qui va être le plus confortable,
le plus pratique.
Ouais, ouais, c'est ça. T'sais, j'ai peut-être l'air freak, là, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé magasiner dans un magasin. Mais si j'avais à le faire, je me pointerais avec mon sac à dos, c'est sûr. Si je m'en magasinais un manteau, si je m'en magasinais des bibs, n'importe quoi qui va se superposer, là, qui va frire, qui va glisser un sur l'autre, qui va faire des rash. Jamais. Fait que.
Okay.
Comme ça, à voir. Là, peut-être que ma Pierre ne sera pas contente.
Ah non,
tu vas
c'est
plein de monde se pointer avec
non,
un sac
non,
à dos. Mais
votre stock pour vrai, vous allez être content. Ben oui. Le but, c'est que vous soyez content et que vous sortez avec du stock que vous êtes en confiance.
Ouais. Prendre fait le temps aussi de checker tout ça. Puis, anyway, tu sais, les personnes, c'est ça, chez Auberçon, les personnes pratiquent ces sports-là. Fait qu'il n'y a personne qui va juger ou même au contraire, vont faire ça une bonne
idée. On a tous parti en quelque part.
Ouais. Exact. Monter ou descendre?
Descendre, vraiment. Ouais. C'est ma motivation de monter. Ouais.
OK.
Vraiment.
OK.
Ça, c'est bon, ça. Si tu pouvais créer un événement sans limite de budget, ça serait quoi? Brièvement.
Ouais, genre. ce qu'on organisait à l'auberge de montagne était quand même high class, là, t'sais, dans le sens qu'on avait notre hélicoptère, on était allé chercher des approbations de Parc Canada, des biologistes pour la conservation, puis on avait trouvé des fenêtres. Ça, c'était un projet de rêve là, que de partir de zéro, de créer quelque chose qui est encore aujourd'hui, malheureusement,
plus possible.
Mais
je pense que c'est ça
possible.
Qui fait vibrer aussi, t'sais, le créer l'inattendu.
Ouais.
T'sais, d'amener les gens à des surprises aussi durant un voyage.
Émerveillé,
ouais,
c'est oh
émerveillé, exact.
Mais tu sais, l'esprit de groupe, l'idée, tu sais, c'était pour l'auberge, là, admettons, pour ceux qui connaissent, c'est une auberge quand même qui est difficilement accessible en termes de moyens financiers parce que ça revient extrêmement cher, mais c'est une auberge exclusive là, dans l'Est du Canada parce que ça ressemble un peu à les lodges dans l'Ouest, là, Island Lake ou whatever, Rétalac. Il y a le service qui vient avec ça. Tu vis en communauté avec le staff. T'sais, le monde, il retourne pas coucher chez eux le soir. Tout le monde vit là. Fait que ça, je dirais que c'est au détriment du budget, mais ça, c'est ce que j'aimerais recréer. Là.
Okay.
Cette immersion-là, mais sur plusieurs jours. T'sais, si on disait qu'après la journée du Mont-Édouard, le monde sort en s'échangeant leur numéro de téléphone, une journée, là-bas, le monde, c'est des grandes accolades, puis le monde, il se redonne rendez-vous.
À chaque année.
Encore aujourd'hui, tu croises du monde des fois que tu as vu il y a 5 ans dans ce voyage-là. Il y avait quelque chose de magique là, qu'on arrivait à créer qui était comme un niveau plus haut. Là.
OK.
Un jour, peut-être.
OK, wow. Ouais, merci, Julien.
Vraiment. Puis sinon, ben, la route que Marie-Pierre, tu t'apprêtes à faire en Autriche.
Oui,
avoir
c'est
beaucoup
ça.
Avoir beaucoup de budget, faire oui, l'Autriche par les voies ferroviaires, là, c'est le meilleur voyage que vous pourrez
rêve.
Faire de ski.
On verra si ça se concrétise cette année.
Ouais.
Donc, merci.
Yeah, merci.
On a hâte déjà d'aller skier. On a déjà hâte d'aller skier avec toi à la remontée. Là, Élie et moi, on devrait être là aussi. Puis là, on
a Édouard à la conquête.
Oui, c'est ça, la remontée. La remontée de la conquête. Puis, petit shout-out aussi, on vous a préparé, guys, une petite playlist pour le Mont-Édouard que vous pourrez, avec toutes les meilleures tunes de ski qu'on voit dans les films de ski ou les trucs qui font vibrer, soit à la montée.
C'est 8 heures de route, hein?
Ben oui, c'est ça. Mais là, vous mettrez ça sur repeat.
Ouais, ça va être sur repeat.
Podcast et après la petite playlist, mais vous irez voir ça, puis
merci. Ouais, merci,
Julie. Ça fait plaisir. Merci, bon succès.
Ciao.
Ciao.